Juste une question par rapport à la transmission de l'exploitation. Alors, on commence à voir arriver des exploitations très importantes, on va dire 200, 300 hectares, les gens arrivent à la retraite, et on est sur des budgets de terres, je veux dire 300 hectares à 2000 euros, voilà, ça monte vite. Ben une vache limousine, ça vaut 2000 euros aussi, hein, s'il y en a 100 ou 150. Le tracteur, bon, souvent, il appartient un peu au crédit agricole, donc, ou beaucoup. Enfin, à un moment, il y avait du matériel. Les bâtiments, on leur a demandé d'avoir des bâtiments aux normes, donc c'est des centaines, des milliers de mètres carrés. Et on arrive à des budgets de 500 000 euros ou 1 million d'euros pour un emploi. Alors, les agriculteurs actuels l'ont constitué sur 40 ans. Personne ne peut avoir ce budget-là pour se créer son emploi.
Ou alors, il faut produire beaucoup de plus-value.
Oui, et avoir à ce moment-là que revenir, non pas à un emploi, mais à 5 emplois, un peu d'accord. Comme l'exemple précédent, où c'est un emploi pour 8-10 hectares. Quoi.
Alors moi, j'ai une question qui concerne cette... je suis fils des paysans, hein,
oui.
Ces agriculteurs, ils sont propriétaires de leur terre. Donc, soit ils veulent la vendre, soit ils veulent la louer. Quelle est la proportion de ceux qui veulent la vendre et la louer? Et comment votre association...
Société coopérative.
Société coopérative va intervenir, aider ou gérer ce problème?
Alors, s'ils veulent louer, la société coopérative va louer ces terres. Alors, ils ont besoin...
Et avec l'autre question, c'est la maison d'habitation au milieu des bâtiments.
Oui, alors ça c'est un problème où on n'a pas vraiment de solution. C'est que l'agriculteur, souvent, il est bien dans sa maison. Si la maison est un peu séparée des bâtiments, ben, un autre agriculteur peut exploiter des bâtiments et puis avoir un bâtiment, une habitation ailleurs ou en refaire une. Quand c'est très imbriqué, c'est compliqué. Alors, l'agriculteur qui part à la retraite, soit il veut louer ses terres, c'est la société peut lui louer, et donc il a la location en complément de revenus dont il a besoin, hein, parce que les retraites agricoles, on est quand même sur du 800 euros en moyenne.
C'est juste...
Ou en dessous.
C'est à peine au-dessus du seuil de pauvreté.
C'est ça.
Voilà. À peine au-dessus du seuil de pauvreté.
Voilà. S'il veut vendre ses terres, alors il y a des outils comme Terre de Liens, mais qui demandent un porteur de projet, un projet identifié. Nous, ce qu'on va proposer, c'est une location transitoire, mais vraiment, non pas sur un bail de 9 ans, mais sur des durées courtes, pour essayer de trouver le porteur de projet ou l'investisseur Terre de Liens. On se pose la question, est-ce que nous, communes, à un moment, il ne faudra pas qu'on achète des terres? Après tout, les communes sont capables de faire des zones artisanale, industrielle, alors quelquefois qui reste totalement vide.
C'est un de nos chevals de bataille.
Non, mais ça semble légitime dans l'industrie, dans l'artisanat, que la force publique investisse pour faciliter cet emploi. Dans l'agriculture, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Je veux dire, beaucoup de communes ont, par exemple, installé ou réinstallé, je ne sais pas, un boulanger, un commerce et tout ça. Nous, on l'a fait à Loup à plusieurs reprises depuis une vingtaine d'années. Et à chaque fois, en mobilisant les subventions, c'était une opération blanche. Quoi. Ça veut dire que la commune ne voulait absolument pas se faire d'argent là-dessus, mais pour maintenir un service à la population, essayer de maintenir le boulanger, le bar, l'épicerie. L'agriculture locale de proximité avec une conscience environnementale, c'est aussi un service public.
Mais le rapport avec les affaires, est-ce que c'est quand même eux un peu qui décident avec qui va être attribué les terres? Ça passe forcément par eux? Comment ça se gère?
Alors, on les a rencontrés à plusieurs reprises. Alors, ils ont été quand même pendant longtemps dans le laisser-faire. Ils reviennent à un petit peu plus d'intervention, mais ils sont quand même assez démunis. Ils ont un vrai pouvoir de préemption sur une vente de terre. Dès lors que c'est une société qui vend 99% de ses parts, ils n'ont aucun pouvoir. Donc il y a plein de nouvelles formes juridiques qui est la loi du retard.
Si je peux me permettre, sur les SAFER, ils ont droit de préempter quand c'est effectivement des exploitations individuelles.
Oui.
Mais quand c'est effectivement des sociétés,
c'est
ils n'ont pas le droit. C'est d'ailleurs la faille juridique qui explique pourquoi la Chine s'est rendue acquéreur de 1700 hectares dans l'Indre, je crois, à travers 5 exploitations. Ils ont utilisé cette faille juridique et ils ont eu la cession des terres avec des parts sociales. Et ils ont contourné comme ça le dispositif SAFER qui peut préempter.
Bourgogne aussi, je crois qu'ils ont.
Pardon ?
En Bourgogne aussi, ils ont.
Oui, c'est possible.
Ils ont loué les terres.
Par contre, sur la démographie des agriculteurs, surtout en Charente-Limousine, c'est vrai que dans les 10 ans qui viennent, il va y avoir beaucoup, beaucoup de départs à la retraite. Et si on s'en préoccupe pas, c'est bien inquiétant.
On avait regardé ça au pays, si tu t'en souviens. Et effectivement, si on laisse faire, toute la Charente-Limousine appartiendra à 10 personnes, quoi. Et peut-être même des Chinois.
C'était un petit peu la question, enfin, c'était mal posé ma question, mais sans doute c'était un peu ça, parce que quels sont les freins, justement. Moi, le constat que je fais, il est sur 20 ans, ça fait 20, je suis pas agriculteur, hein, je ne suis qu'un consommateur, mais justement, je m'inquiète aussi quand même. Parce que sur 20 ans, depuis que j'habite ici, je vois bien qu'à un moment donné, on défriche de plus en plus, et on met du maïs déjà. Ce n'était pas la vocation première de ces terres, je crois. Non. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va cultiver de plus en plus pour nourrir de plus en plus de bétail. Il y a eu, je me souviens dernièrement, ça avait fait un petit peu de remous, l'histoire des Hollandais de la Rondortière, avec leurs 500 vaches, etc. Ça partait d'un sentiment parfaitement cohérent, c'est-à-dire le monsieur, il a, je sais plus, 4 ou 5 enfants, je ne me rappelle plus, peu importe d'ailleurs, s'il en avait 10, ça serait pire. Et puis il voulait léguer 100 vaches, c'est sympa comme truc. Sauf qu'à un moment donné, il faut les nourrir, et puis il faut exploiter des terres pour les nourrir. Et que, ça s'appelle, c'est à Lézignac, hein. Lézignac, c'est une petite commune qui est quand même beaucoup plus grande que la mienne, mais. N'empêche qu'il exploite des terres à 20 km, quoi. Alors, ils ont des tracteurs qui ne seraient pas ici, avec des remorques de plus en plus grosses, qui ne passent plus dans les rues, qui défoncent les chemins. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On est dans. C'est cette espèce de dérive dont je suis spectateur, hein, évidemment. Mais je me dis, il n'y avait pas les mêmes tracteurs quand je suis arrivé il y a 20 ans, déjà. Donc. Et comment est-ce qu'on fait à un moment donné Ça me gêne, parce que je me dis, on va bouffer de la merde, on en bouffe déjà pas mal. C'est et puis je vais en avoir dans mon puits, parce que je puise encore l'eau de mon puits, et j'ose espérer qu'elle est bonne, elle est buvable en tout cas, je suis encore là. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne va pas durer longtemps, quoi. Et puis en plus, ce problème-là des terres, effectivement, ça pose le problème des maisons. Il y a, sur ma commune, qui est toute petite encore une fois, des tonnes de maisons, à tous les sens du terme d'ailleurs, parce que des fois c'est par terre, qui n'existent plus, il n'y a plus personne, quoi. Et ils n'en ont rien à foutre, les paysans, parce qu'ils en ont déjà une à eux, ou ils en ont fait construire une un peu plus moderne. Tout le reste, ça peut bien, c'est... Moi j'ai acheté une ferme, avec 1000 mètres carrés de toiture de grange, mais celui qui exploitait les terres autour, pas le propriétaire, le locataire qui a plein de terrain, lui, ce qui l'intéressait, c'était d'acheter les 20 et quelques hectares qui sont autour de ma ferme, pas de ma maison, mais la maison, ils s'en foutaient, ils voulaient la démolir. Heureusement, les propriétaires ne voulaient pas, ils ont vendu la maison. S'ils n'avaient pas acheté la maison, tout serait démoli. Voilà, donc c'est cette problématique-là. C'est le constat que je fais, et puis quand je me balade, j'ai que ça à faire d'ailleurs, ou presque, je vois bien les ruines qu'il y a, et ça offrirait quand même des possibilités, me semble-t-il, ou ça aurait pu offrir, parce que c'est peut-être trop tard, et j'ai l'impression qu'on dérive dans l'autre sens. Quoi. Enfin,
c'est pas trop tard.
Donc je me dis à un moment donné, est-ce qu'il y a, c'est pour ça.
Il y a un mouvement général. On a parlé d'exode rural il y a quelques dizaines d'années, j'ai envie de dire, il continue. Il y a encore une volonté que les gens s'entassent en ville ou en périurbain. Et nous, à côté de ça, nos populations se stabilisent ou diminuent et nos services publics se perdent. Par rapport à la protection des haies, on est ici en Charente-Limousine, un territoire où on n'est pas trop en avance. Dans le sens où il y a des documents d'urbanisme, donc des plans locaux d'urbanisme, ou des scores, des schémas de cohérence territoriale, qu'on n'a pas, je ne sais pas si on aura un jour, qui peuvent protéger tout ça. Si on n'a pas ces outils-là, ben, je veux dire, quelqu'un... alors, si vous voulez, les aides de la PAC, la politique agricole commune, imposent d'avoir des linéaires, d'avoir des linéaires de haies, tout ça, de ne pas labourer une prairie. Simplement, si on change de forme juridique, ben, hop, tout d'un coup, on a tous les droits, on peut avoir 50 hectares de prairies, y compris des zones humides, des prairies qui sont là depuis toujours, ben, hop, on laboure, on fait du maïs. Et voilà, donc on... Après, c'est aussi la dérive liée à ces aides agricoles qui sont liées à l'hectare. Donc, plus j'ai d'hectares, plus j'ai d'aide. Que je les exploite ou pas, et peu importe la forme. Pour vous donner des chiffres un petit peu, un hectare de terre, ça se loue environ 100 euros par an. Alors, je parle en terre agricole d'élevage. Hein. Après, ça monte un petit peu en terre céréale. Là-dessus, il va y avoir des charges sociales à... Alors, qui, pour les plus anciens, sont encore calculés à l'hectare, pour les nouveaux, sont plus calculés sur le revenu réel, mais je dirais qu'il va y avoir les 30 euros par hectare de charges sociales. Et les aides européennes peuvent être entre 150 et 250 euros de l'hectare. Mais il n'y a pas de quota par unité de travail. Ça veut dire qu'un homme, que sur 200 hectares, il y ait 10 hommes ou un homme, les aides sont les mêmes. Enfin, voilà, c'est ça, c'est des dérives. Un peu du libéralisme européen.
Marcel.
Alors, oui, il me semble, là, on parle d'un côté, il y a le productivisme, les fermes productivistes, et d'un côté, au niveau de jeunes agriculteurs, il n'y a pas beaucoup de demandes qui veulent s'installer, en particulier les enfants de paysans. J'ai comme l'impression que s'il y en a qui reviennent à la terre, c'est pas forcément... Les propres enfants, le fait de la transmission de famille en famille, ça n'existe plus, puisque les enfants de paysans, c'est tout. La culture d'une famille, en général, maintenant, c'est de dire à leurs enfants, vous faites tout, mais surtout, vous n'êtes pas paysans comme nous. Et plus quand les enfants voient leurs parents travailler, confrontés à une autre culture qui vit ailleurs, il y a un décalage. Alors, peut-être qu'en ce moment, c'est en train de se... Mais il y a quand même un problème de culture aussi. De culture et de moyens financiers. Et voilà.
La plupart des personnes... Alors déjà, les personnes qui s'installent dans l'agriculture, comme tous les métiers, ce n'est pas forcément des jeunes. Ça peut être des gens qui ont fait un autre métier pendant 10 ans, 20 ans, qui changent de métier. Et de plus en plus viennent d'un autre monde.
Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire.
Donc il faut prévoir d'autres types d'accompagnement. Nous, chez dans la commune, il y a vraiment, on va dire, entre 5 et 10 agriculteurs qui sont prêts à faire du tutorat par rapport aux jeunes qui vont arriver. Alors, ça va être du tutorat concret, en disant, on peut prêter un matériel ou on peut donner un coup de main, mais ça peut être du tutorat technique, mais ça peut être aussi des rencontres régulières organisées, parce qu'il y aura besoin... C'est vrai que le modèle qu'on avait de la transmission familiale faisait qu'il y avait une culture, enfin, je veux dire, une connaissance un peu historique... Que les personnes qui s'installaient ben, avaient appris depuis tout petit. Donc, ils connaissaient la preuve d'un animal, la preuve des saisons, la preuve des cultures. Maintenant, par rapport à ces nouveaux arrivants, après, moi, j'ai envie d'être optimiste. Je pense qu'il y a des demandes.
Et justement, vous avez prévu des tutorats.
Voilà.
Dans ce que tu nous avais expliqué.
Oui, ça c'est très important.
Dans ce que tu nous avais expliqué, tu nous avais dit que chaque personne qui s'installait, il y avait un autre agriculteur voilà. qui était tuteur et qui donnait un coup de main. Si je me souviens bien.
Oui, en tout cas. Oui.
Michel était avec nous. Tu te souviens de ça, Michel?
Après, on a un autre projet sur la commune. Donc, on a une association culturelle. La maison Maria Gazares qui a des activités de théâtre. Et dans la nouvelle direction qui a juste été choisie là, il y a moins d'un mois, et dans ce domaine, il va y avoir une activité de maraîchage en agriculture biologique qui va se mettre en place.
Dans la maison Maria Gazares?
Dans le domaine autour. Là. Il y a 5 hectares.
Oui, enfin non, alors.
Autour de la maison.
Autour de la maison.
Voilà.
Je reviens sur différents points. Hein. Par rapport, nous, quand on a fait nos recherches de ferme, c'est vrai que le fait que les agriculteurs qui restent dans leur maison, qui est vraiment encastrée dans le corps de ferme, ça a été un énorme problème. Quoi. Sur plusieurs fermes, nous, clairement, on n'avait pas envie d'avoir l'ancien agriculteur. Et je pense que ça peut être... c'est que par de l'accompagnement à la transmission... en expliquant aux agriculteurs qu'il va falloir qu'ils s'en aillent, parce qu'il faut quand même laisser, enfin, je pense qu'il faut laisser la place
aux jeunes,
aux nouveaux arrivants. Et nous, on a eu une chance énorme, c'est, voilà, ceux qui étaient sur la ferme voulaient partir, donc c'est, au final, c'est assez rare. Et du coup, je pense qu'il faut quand même faire pas mal d'informations auprès des futurs retraités fermiers. Quoi. Ensuite, par rapport, je vais parler de la SAFER, que je pense qui est quand même au départ un outil assez exceptionnel en France, qui aurait pu être vraiment, vraiment intéressant pour gérer le foncier, mais aujourd'hui ça n'est plus du tout. On se rend compte que c'est y a beaucoup de liens avec les gens du syndicat majoritaire, et en fait quand on cherche une ferme on a accès à 5-10% des annonces foncières qui des ventes de terres. Enfin, nous on a eu très peu d'annonces, on a eu des annonces que des gens qui étaient vraiment motivés pour vendre leur ferme à des jeunes. Sinon, la plupart des ventes de terres se fait sous le manteau, et on n'en a pas accès. Ça, c'est
un des obstacles.
C'est vraiment un gros problème qu'il faut absolument régler, parce que du coup, c'est uniquement des transactions entre paysans pour l'agrandissement. Le voisin qui cherche ça, vas-y, moi je te file ces terres-là, etc. Par rapport aux grandes surfaces, c'est vrai que les fermes prennent de l'importance au niveau des surfaces, et du coup le prix est assez élevé, et pour des jeunes hors cadre qui n'ont pas de famille dans l'agriculture, c'est vrai que c'est compliqué, quoi, parce que nous par exemple notre ferme, il aurait fallu que le jeune il sorte 1 200 000 euros, quoi, pour le bâtiment, les terres, le matériel, le cheptel. Donc y avait un candidat en plus, hein, un petit de 18 ans, et la banque lui a dit oui, quoi. Donc sur une production, c'était sur du bovin à l'étang pour envoyer à l'engraissement en Italie, un système qui est en plus assez bancal en ce moment. Et du coup, je pense que par rapport aux grandes surfaces, il faut pouvoir rediviser un peu ces grandes fermes. Surtout, comme on l'a dit, il y a des maisons d'habitation qui sont un peu en ruine, certes, mais
qui existent
et qui pourraient être prises. Et du coup, un outil comme la SAFER qui pourrait fractionner.
Fait le contrat.
Et en même temps, et aussi, il y a une réserve foncière de la SAFER qui existe. Hein, en Limousin, ils ont pas mal, on a une affaire plutôt cool en Limousin, qui ont une réserve foncière un peu plus importante, enfin il y a une politique de réserve foncière un peu plus importante, et du coup le but c'est de faire un peu comme la STIC en choix, je pense, de garder cette période transitoire entre la transmission et l'arrivée du nouvel installé. Quoi.
Par rapport à la réserve foncière de la SAFER en Charente, ça a été quand même essentiellement mobilisé par rapport au projet de LGV et de mise à quatre voies des routes. Donc depuis, allez, on va dire 10 ou 20 ans, c'est focalisé là-dessus. Bon, on arrive pour la LGV, on arrive vers la fin. Enfin, il y a quand même plein de problèmes qui se posent. Hein. Mais par rapport à la notion du secret, moi, dans ma commune, les agriculteurs, je les connais tous. Ceux que je ne vois pas en réunion, je vais les voir au moins une ou deux fois par an au bout du champ ou dans la salle de traite. Il y a des mouvements de terre de location de 50 ou 100 hectares que j'apprends qu'après. Donc on est aussi sur cette culture-là, effectivement. Donc ça veut dire que dans nos initiatives pour faire une autre agriculture, je veux dire, si ça concerne que 10 ou 20% des mouvements de terre, ce sera toujours ça de prix, quoi. Mais on n'aura pas d'outils pour tout maîtriser ou pour tout réorienter.
Commencer par un bout.
Voilà. C'est un peu comme le maraîcher qui s'installe. Il ne s'agit pas qu'il fasse fermer le rayon de légumes du supermarché du coin. Hein. Il s'agit qu'il trouve sa clientèle en face de sa production.
Les deux. Vas-y.
Marie-Jeanne. Oui, tout à l'heure, on parlait du schéma territorial.
Oui.
Oui. J'avais pu comprendre, il y a quelques années, qu'il voulait absolument ralentir l'accumulation des lotissements dans les campagnes.
Oui.
Et effectivement, pour pouvoir promouvoir l'agriculture,
Alors, moi, je vois, j'avais entendu ça il y a quelques années, en quand on se balade, on voit que les lotissements ont continué à se multiplier, qui sont souvent de plus en plus affreux, enfin, élevés, hein, bien sûr. Et surtout, qu'il y a quand même de pas mal d'agriculteurs qui, je ne sais pas si ce sont de bonnes ou de mauvaises raisons, mais qui finissent par céder, évidemment en connivence avec la commune, hein, pour vendre cette terre.
Oui, dans les communes, alors, soit il y a un document d'urbanisme, soit il n'y en a pas, mais même s'il n'y en a pas, si une personne veut construire un lotissement ou une maison individuelle dans une parcelle agricole, il y a une commission départementale qui donne son avis et qui essaie de freiner au maximum la consommation excessive de ces espaces agricoles pour garder les terres agricoles pour l'agriculture. Donc ça veut dire que quelqu'un, moi dans ma commune, quelqu'un qui dit je vais construire une maison sur 3000 m², en gros ça va être refusé, quoi. Puis si, et s'il a 500 ou 1000 m², ça va être accepté, à condition que ce soit vraiment dans un village ou collé à un village. Si c'est au milieu de la campagne, il n'y aura pas droit. En même temps, sur des lotissements, notamment périurbains, ben, il y a des autorisations. On voit autour d'Angoulême, sur des zones commerciales, c'est un peu une catastrophe quand même, parce qu'on crée des zones commerciales sur des dizaines d'hectares, où on voit des bâtiments, des parkings, et puis des espaces verts là, qu'il va falloir tondre à n'en plus finir, sans que ça produise rien. Et en plus, ça fait un appel d'air pour des commerces. Et donc, il y a d'autres. On crée des friches commerciales ou industrielles à côté. Bon, je pense pas. On sait que la population d'Angoulême n'augmente pas. Et on sait que les magasins s'ouvrent à n'en plus finir. Donc, il y a des gens qui gagnent de l'argent avec ça.
Et ferment
à n'en plus finir aussi.
Voilà. Dans le centre.
La gestion. Il y a effectivement l'obligation. Pour les communautés de communes, c'est plus au niveau des communes maintenant, c'est au niveau des communautés de communes, de mettre en place des schémas de cohérence territoriale. C'est en cours, par exemple sur la communauté de communes de Haute-Charente et sur celle du Conflentais qui vont être réunies d'ici la fin de l'année. Les deux communautés de communes réfléchissent actuellement à un schéma de cohérence territoriale qui effectivement comprendra ce qui est réservé aux terres agricoles, ce qui est réservé à du développement urbain. Ce qui est sûr, c'est que ça échappe maintenant complètement aux maires. C'est plus les maires des communes qui gèrent cette question-là. Si on signe et on envoie le dossier, mais la décision se prend plus au niveau de la commune. Ce qu'on observe, c'est qu'en effet, des certificats d'urbanisme qu'on peut déposer. Quand c'est des certificats d'urbanisme qui sont sur des terres agricoles, ils sont en général quand même de plus en plus refusés. Oui. Hein, ou alors, il faut vraiment que ce soit des terres, comme il peut y en avoir à Puybou, où il y a du caillou, et vraiment en continuité du village, pour qu'il y ait une autorisation. Mais comme il y a beaucoup de choses qui se font à bas bruit, bien entendu qu'il y a des échappatoires à ça. Parce que j'observe, moi, que les médias s'enflamment, et nous, on s'enflamme aussi, quand on voit poindre la possibilité d'une ferme à 500 vaches ou à 1000 vaches. Mais la culture du secret, la discrétion de nos amis agriculteurs fait que, par exemple, dans ma commune, j'ai découvert, avec quelle surprise, parce que mon petit-fils veut voir les mamans vaches, qu'il y a une ferme où il y en a 700. Et au début, il n'y en avait pas 700. Mais cet été, j'ai découvert qu'il y en avait 700. C'est tout doucement, comme ça, c'est fait, quoi. Ça se fait. Donc là, la mobilisation, inverser le cours, je veux dire, c'est pas demain. C'est pour ça, c'est le sens de cette journée, c'est montrons que c'est possible, montrons qu'il y a des gens qui s'y mettent, et que si des gens s'y mettent et que c'est possible, on peut en faire une règle. Mais ce n'est pas pour demain, parce que les choses sont très avancées déjà. Très avancées déjà.
Oui, donc c'est vrai que le problème, c'est là qui a été évoqué, là, des agriculteurs qui habitent au milieu de... C'est vrai que c'est un problème qui est difficile à résoudre, dans la mesure où souvent... Ce sont des habitations qui viennent d'héritage, enfin c'est l'héritage de plusieurs générations souvent. Donc on peut comprendre que les agriculteurs ne veulent pas non plus quitter ça parce qu'ils y sont nés, parce que ben, toute la famille Yannet, il y a toute une histoire derrière tout ça, donc ça, c'est difficile à gérer. Et il y a autre chose aussi, c'est que souvent, je prends un exemple, moi c'est dans le sud de Charente, j'ai un exemple d'un agriculteur, qui est mon voisin de plus près. L'activité principale était la viticulture, et il s'inquiétait, puisqu'il est de ménage, et il s'inquiétait beaucoup parce que il se trouve qu'il avait deux filles qui avaient qui ont eu des destinées totalement différentes de la viticulture, et donc il s'en inquiétait beaucoup. Et donc ça rejoint ce qu'a dit tout à l'heure, c'était le tutorat. Donc là j'ai découvert ça, il y avait un jeune qui avait des diplômes d'œnologie globalement, mais qui n'avait pas le moindre, qui était issu d'une famille urbaine, et donc qui n'avait pas la moindre surface de vigne. Donc il y a eu un tutorat, un recouvrement sur 3 ans, et qui a débouché sur une expérience totalement positive. Mais le problème, c'est ces problèmes de bâtiment, de cohabitation, parce que l'agriculteur cédant, il avait donc comme activité principale la viticulture dans ce cas-là, mais il y a aussi à côté, parallèlement, il avait une activité d'élevage, et quand il a pris sa retraite, en prenant sa retraite, il voulait arrêter la viticulture parce que c'est vraiment quelque chose de très particulier et chronophage, mais il a voulu maintenir son activité d'élevage, à côté d'élevage, avec tout ce qui va autour. Donc il lui fallait quand même garder des bâtiments, il fallait garder du matériel, tout ça, donc ce qui fait que tout ça, c'est un ensemble de choses. Bon, ça s'est fait relativement intelligemment, et donc ce qui fait que ça permet aussi que le jeune qui a pris, ça marche très bien son affaire, en ayant racheté les vignes et une partie des bâtiments, surtout ceux qui étaient vraiment dédiés au métier de agriculteur. Donc c'est une chose, mais ce qui c'est qu'au point de vue logement, ça a même débouché sur une construction. Donc, et puis maintenant, c'est une famille qui va vivre, théoriquement, ça fera une famille qui va vivre dans une commune qui est un peu du style d'Arlou, avec une désertification rurale énorme. Donc il y a des solutions, mais il y a aussi c'est pas des freins, mais c'est l'histoire qui s'est construite comme ça, donc on peut difficilement...
On va revenir tout à l'heure sur la construction de l'histoire. Jean-Marc.
Je suis un peu étonné là que vous n'ayez pas encore à donner, là, par exemple, au niveau des fermes avec un certain nombre d'animaux, là, parce que lorsque vous dépassez un certain nombre d'animaux, ça doit bien occasionner des gènes. Je vois par exemple un agriculteur qui veut construire une porcherie, là, il peut pas la construire n'importe où, il est obligé de respecter une distance et puis un nombre d'animaux limité.
Pour répondre rapidement, il y a une procédure d'enquête publique par rapport à l'installation classée protection d'environnement, mais les seuils sont quand même assez hauts. Moi, sur ma commune, j'ai une ferme qui a plus de 200 vaches laitières, mais tout ce qui est en dessous n'est pas soumis à autorisation.
Et puis,
le procédé se fait par extension.
Voilà, c'est
oui,
ça.
En fait, c'est pas une implantation directe de quelqu'un qui arrive en disant « je vais monter une exploitation avec 700 bêtes », par exemple. C'est historiquement, comme tu le disais, un cheptel, et puis petit à petit, on en rajoute 50, on en rajoute 100, etc. Et ce qui n'est pas soumis à autorisation, forcément.
L'extension, pour pouvoir nourrir derrière.
Oui.
Si vous passez 200 à 200 ou à 1000, c'est pas la même chose.
Il y a plus de camions qui amènent la nourriture, c'est tout. Il faut une route.